Acte 12. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais l'histoire qui nous est racontée ici, dans ce chapitre, elle commence avec Jacques décapité, Pierre emprisonné, l'Église persécutée et Hérode triomphant. Mais l'histoire se termine avec Pierre délivré, l'Église encouragée, Hérode mort et la parole triomphante. Si vous allez rapidement au verset 24, vous voyez chapitre 12, verset 24, on lit que « Quant à la parole de Dieu, elle se propageait de plus en plus. » Il va être question pour nous ce matin du triomphe de l'Évangile, c'est ce qu'on veut voir. Mais Luc, qui nous rapporte ces événements ici, place cette réalité du triomphe de l'Évangile côte à côte, on pourrait dire main dans la main, avec une réalité tout autre, qui est celle des souffrances de l'Église. Et ce que j'aimerais qu'on voit ce matin, c'est finalement comment est-ce que ces deux réalités qui nous semblent à nous contradictoires, comment ces deux réalités peuvent coexister. Mais avant qu'on en vienne vraiment au texte lui-même, j'aimerais vous inviter à ce qu'on replace ce passage dans son contexte. Donc venez juste avec moi quelques pages en arrière, au début du livre des Actes, juste quelques pages, Actes au chapitre 1. Acte chapitre 1, et je vais juste lire les quelques premiers versets. Vous allez voir que ça va nous aider pour la suite. Acte chapitre 1, verset 1. Cher Théophile, dans mon premier livre, j'ai parlé de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner jusqu'au jour où il a été enlevé au ciel après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Après avoir souffert, il se présenta à eux vivants et leur en donna de nombreuses preuves. Pendant 40 jours, il se montra à eux et parla de ce qui concerne le royaume de Dieu. La première chose qu'on voit ici, au verset 1, c'est la grande continuité qu'il y a entre le livre des Actes, donc qui nous intéresse ce matin, et ce, vous voyez au verset 1, ce fameux premier livre que Luc a écrit. Et on comprend bien qu'il s'agit de l'évangile de Luc. Si vous voulez, c'est comme si on avait un seul récit en deux tomes ou deux chapitres d'un même livre. Et c'est essentiel de comprendre que c'est le même auteur qui a écrit l'évangile de Luc et ce livre des Actes des Apôtres pour ce qu'on verra tout à l'heure. Donc gardez ça en tête pour tout à l'heure, c'est un auteur qui a écrit ces deux livres. La deuxième chose qu'on voit ici, c'est que Luc à aucun moment s'intéresse à faire, on pourrait dire, la biographie d'un apôtre, que ce soit Pierre ou Paul, ni même à nous raconter vraiment les origines du christianisme. On pourrait dire que malgré le titre, il ne s'agit pas vraiment des actes des apôtres, mais des actes de Jésus-Christ au travers de ses apôtres. Si je dis ça, c'est parce que vous voyez au verset 1, Luc nous dit qu'il a parlé dans son premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire. Sous-entendu, maintenant je vais vous raconter la suite. Et donc ça aussi, c'est vraiment quelque chose à garder en tête pour la suite. Il y a un personnage principal à l'évangile de Luc et au livre des Actes. Et ce personnage, bien sûr, c'est Jésus-Christ. Et la dernière chose que j'aimerais juste vous montrer dans ces versets-là, c'est que si dans son premier livre, dans son évangile, Luc nous a raconté comment le royaume de Dieu s'est approché avec la première venue de Jésus-Christ, dans ce deuxième livre, dans le livre des Actes, il nous explique comment le royaume de Dieu s'est étendu à travers le monde. Regardez au verset 3. Au verset 3, on lit que Jésus-Christ, après avoir souffert, se présenta à eux, c'est-à-dire à ses disciples vivants, et leur en donna de nombreuses preuves. Pendant 40 jours, il se montra à eux et parla de quoi? De ce qui concerne le royaume de Dieu. Et maintenant, je vais vous demander juste de faire le grand saut, de venir avec moi juste tout à la fin du livre des Actes. Et vous allez voir qu'il y a comme un cadre à ce livre. Tout à la fin du livre des Actes, au chapitre 28, les versets 30 à 31, donc les tout dernier verset du livre des Actes, où on retrouve Paul à Rome, Actes 28, verset 30, et on apprend ici que Paul est resté 2 années entières dans une maison qu'il avait louée. Il accueillait tous ceux qui venaient le voir. Il prêchait quoi? Le royaume de Dieu. Vous voyez, du début jusqu'à la fin du livre des Actes, on apprend comment le royaume des dieux s'est étendu à partir de Jérusalem, la capitale du monde juif, jusqu'à Rome, le centre du monde païen. Et cette histoire, si vous voulez, ce mouvement, il se décline en deux grandes parties. Il y a les chapitres 1 à 11, où on voit le début, vraiment, le progrès de l'évangile à Jérusalem, en Judée. Et puis les chapitres 13 à 28, où on est dans les voyages missionnaires de Paul jusqu'au bout du monde, jusqu'à Rome. Et vous avez bien compris qu'au milieu, entre ces deux parties, eh bien, il y a le chapitre 12. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Donc je vous invite à revenir avec moi au chapitre 12. Et juste encore avant qu'on en vienne au passage, encore, il y a une chose qu'il faut absolument voir, c'est juste avant le chapitre 12, les versets qui précèdent. Voyons, dans le contexte, il y a une famine qui s'est déclarée en Judée. Au chapitre 11, verset 29, on apprend que les disciples, sous-entendu les disciples d'Antioche, où se trouvent Paul et Barnabas, décidèrent d'envoyer chacun selon ses moyens un secours aux frères et sœurs qui habitaient la Judée, qui était sous cette famine. Et c'est ce qu'ils firent, au verset 30, en l'envoyant aux anciens par l'intermédiaire de Barnabas et de Saul. Donc on voit Barnabas et Paul qui descendent de Antioche à Jérusalem. Et si vous allez à la fin de notre chapitre 12, je m'excuse, je vous fais un peu jongler dans vos Bibles. On arrive au bout. Au verset 25, on apprend quoi ? Qu'une fois leur mission accomplie à Jérusalem, Barnabas et Saul repartirent en menant avec eux Jean surnommé Marc. Et c'est juste un détail, mais c'est pour vous montrer que, à première vue, je dis vraiment à première vue, mais on pourrait enlever l'entier du chapitre 12, on n'y verrait rien. On lirait les 11 premiers chapitres, on verrait Paul et Barnabas descendre à Jérusalem, on recommencerait le chapitre 13 avec Paul et Barnabas qui remontent de Jérusalem, leur mission accomplie, et on lirait la suite du récit. Et je crois que ça nous fait réfléchir un tout petit peu. Quelle est la question que ce constat-là, donc que le chapitre 12 ne semble a priori pas nécessaire pour comprendre le fil du récit, quelle question est-ce que ce constat-là devrait susciter en nous qui sommes à l'écoute de la parole de Dieu là ce matin ? Moi, il me semble que la question qui est cruciale pour nous, mais c'est alors, mais pourquoi est-ce qu'on a un chapitre 12 dans nos Bibles ? À quoi il sert ? Chaque passage de la Bible a un rôle bien précis dans l'histoire de la révélation de Dieu aux hommes. Quel est le rôle de celui-là ? Ou si on tourne dans l'autre sens, qu'est-ce qui nous manquerait si on n'avait pas ce chapitre 12 du livre des Actes ? Et certainement qu'il y aurait plusieurs éléments de réponse possibles, mais je pense principalement que, voyons, avant qu'on s'embarque avec Paul et Barnabas dans leur voyage jusqu'au bout du monde pour être témoin de l'évangile aux nations, une tâche que nous sommes appelés à poursuivre ici, là où Dieu nous a placés, aujourd'hui, dans cette région, ici à Bouc-Bel-Air, c'est comme si Luc nous donnait ses dernières instructions. Et il nous dit la chose suivante. Il nous dit que les témoins de l'évangile, c'est-à-dire vous et moi, les témoins de l'évangile ne triomphent pas. Mais c'est l'évangile. L'évangile du Christ roi progresse triomphalement au travers des souffrances de son peuple. Ce qu'on va essayer de voir maintenant, et j'aurai deux parties à mon message. Tout d'abord, j'aimerais vous montrer que l'évangile progresse péniblement. C'est le premier verset. Et dans un deuxième temps, j'aimerais vous montrer que l'évangile progresse irrésistiblement. Et ça, c'est la fin du chapitre. Donc, tout d'abord, l'évangile progresse péniblement. Je vous invite à ce qu'on relise à partir du verset 1, juste un tout petit peu. À cette époque-là, le roi Hérode se mit à maltraiter des membres de l'Église et il fit mourir par l'épée Jacques, le frère de Jean. Quand il vit que cela plaisait aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant la fête des pains sans levain. Je m'arrête juste là un instant. Pour vous montrer, on est quelques années déjà après la Pentecôte. L'évangile, comme j'ai dit, s'est répandu très rapidement à Jérusalem. Et forcément, ça a suscité de l'inimitié, de l'opposition. Et l'ennemi ici, il a un nom, c'est Hérode. Mais son nom d'usage, on pourrait dire le nom que vous allez retrouver si vous lisez des historiens de l'époque, comme Flavius Joseph, que je vais citer tout à l'heure. Son nom d'usage, c'est pas Hérode, c'est Agrippa. Et il me semble que si Luc l'appelle Hérode ici, et non pas Agrippa, comme on aurait pu s'y attendre, c'est parce qu'il a vraiment envie que nous fassions le lien délibérément entre cet homme et sa famille. Un peu comme pour dire, ce gars-là, il passe vraiment bien dans l'arbre généalogique de sa famille. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais son oncle, il s'appelle Hérode Antipas, c'est lui qui avait décapité Jean-Baptiste, ça nous est rapporté dans les évangiles, c'est lui qui avait tenu Jésus captif aussi peu avant sa crucifixion. Son grand-père, qui est peut-être encore plus connu, Hérode le Grand, c'est lui qui avait massacré des milliers d'enfants à Bethléem lors de la naissance de Jésus. C'est un texte qu'on lit souvent à Noël, vous vous rappelez peut-être. Bon, il a tué aussi, accessoirement, sa femme, deux de ses enfants. Et on raconte que peu avant sa mort, il s'est arrangé pour que on mette à mort une centaine de dirigeants juifs pour être sûr que le peuple juif qu'il avait tellement opprimé pendant sa vie serait assez triste pour le pleurer lors de ses funérailles. Donc, vous voyez un peu le genre de. Voilà, quel genre de personne c'est. Et c'est comme si Luc nous dit ici, Agrippa, il est de la même étoffe. Alors, nous, on dirait qu'il a les mêmes gènes aujourd'hui. Mais pour Israël du 1er siècle, il suffisait de dire il a le même nom, ça voulait déjà tout dire. Alors on sait que l'autorité d'Hérode était contestée autant à Rome qu'à Jérusalem, et du coup pour s'assurer, on pourrait dire, la stabilité politique là dans son royaume, il a trouvé un peu une idée de génie politique, c'est de persécuter l'Église. Et il s'en donne à cœur joie, parce qu'après avoir mis Jacques à mort, il fait encore arrêter Pierre, parce qu'il voit bien que ça plaît aux Juifs. Je reprends juste ma lecture au verset 4. Après l'avoir fait arrêter et jeter en prison, il le mit sous la garde de quatre escouades, de quatre soldats chacune. Il avait l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Pierre était donc gardé dans la prison et l'Église adressait d'ardentes prières à Dieu pour lui. Et je m'arrête juste là parce qu'il faut absolument qu'on ressente un tout petit peu de la tension, de la crainte qui devait régner ce soir-là dans cette réunion de prière à Jérusalem. Parce que bien sûr, nous on connaît la suite de l'histoire. On sait comment ça s'est terminé, mais essayez de vous mettre à leur place. La situation est vraiment désespérée. Jacques, l'apôtre Jacques, a été mis à mort. Pierre, ce rocher sur qui Jésus avait dit qu'il voulait bâtir son église, Pierre est entre les mains de ce roi violent et opportuniste dont on vient de parler. Et la situation semble vraiment sans issue. D'autant plus que vous voyez au verset 4, on pourrait dire Pierre est dans une prison à sécurité maximum. Il y a quatre escouades de quatre soldats chacune qui se relayent selon le mode de fer romain, c'est-à-dire toutes les 3 heures de la nuit, ils se relayaient pour le garder, ce qui veut dire qu'ils étaient sans arrêt sur le qui-vive. Et il semble d'autant plus impossible que la situation s'améliore, parce qu'on apprend au verset 6, vous voyez au verset 6, qu'on est la veille du procès. On est peut-être seulement à quelques heures de l'exécution de Pierre. Vous voyez, je crois qu'on arrive quand même un tout petit peu à ressentir la tension qu'il devait y avoir ce soir-là, dans cette réunion de prière à Jérusalem, la crainte qu'il devait y avoir, même si on n'a jamais été dans une situation pareille, parce qu'on sait tous très bien ce que ça fait que de se sentir parfaitement impuissant, n'est-ce pas? Parfaitement impuissant, que ce soit face à la situation internationale. C'est vrai que on peut penser particulièrement à depuis janvier, on a dans les médias, on voit de plus en plus que, enfin, les médias se sont rendus compte que l'Église peut être une minorité opprimée dans certains pays. On voit de plus en plus que il y a une réelle opposition. Et quand on considère vraiment les choses de notre perspective, quel espoir est-ce qu'il y a vraiment pour l'Église et pour l'Évangile? Quand on considère les puissances humaines, l'hostilité naturelle du cœur humain à l'Évangile, il n'y a pas d'espoir. On est totalement impuissant, n'est-ce pas? Impuissant aussi, peut-être à un niveau plus personnel, là, je pense à chacun d'entre nous, avec les gens qu'on côtoie côtoie au quotidien, que ce soit nos proches, notre famille, des collègues de travail, ces gens qu'on aime énormément parce qu'on passe beaucoup de temps avec eux, bien sûr, et à qui on aimerait pouvoir transmettre cet amour que Dieu a déversé dans nos vies, et où on rencontre parfois que de l'indifférence, de l'hostilité peut-être même. Impuissant aussi, peut-être de manière un peu plus générale, voilà, dans notre contexte ici en Occident, en France, quand on. Je ne sais pas trop comment le dire, mais on est tellement face à l'aridité spirituelle, n'est-ce pas, dans le contexte dans lequel on est. Il faut attendre des mois, voire des années peut-être pour voir des choses qui se passent, des choses qui bougent. Et ça peut être vraiment décourageant, ça peut même se retourner presque contre nous et nous amener, nous, dans une forme de découragement, à passer par des temps de sécheresse spirituelle, parce que voilà, on a l'impression que Dieu n'est pas là, qu'il n'est pas à l'œuvre, qu'il n'est pas, il ne se soucie pas de son Église ici. Oui, je crois qu'on pourrait poursuivre un peu les exemples, mais à mon avis, on arrive un tout petit peu à sentir la tension qui devait régner ce soir-là, parce qu'on sait très bien, n'est-ce pas, ce que ça fait que d'être parfaitement impuissant face à une situation. Mais remarquez une chose, au verset 6. Pierre, lui, il dort. Vous voyez au verset 6? Il dort. La raison pour ça, à mon avis, c'est qu'il n'est pas surpris. Il s'attendait à ça. D'ailleurs, c'est assez frappant que c'est cet apôtre-là, Pierre, qui écrit dans sa première épître, en 1 Pierre 4, 12, il dit la chose suivante, il dit « Bien-aimés, ne soyez pas surpris de la fournaise qui sévit parmi vous pour vous éprouver, comme s'il vous arrivait quelque chose d'étrange. » Soyez pas surpris. Ne soyons pas naïfs. L'évangile progresse péniblement au travers des souffrances de l'Église. Oui, je crois que c'est avant qu'on s'embarque, comme je disais avant, avec Paul, dans ses voyages missionnaires jusqu'au bout du monde pour être témoin de l'évangile, une tâche, comme je l'ai dit, qu'on est appelé à poursuivre ici, maintenant, là où on est. Chacun d'entre nous. Luc veut nous montrer deux choses. Il veut nous montrer, premièrement, l'hostilité du monde envers l'Église, il veut nous le rappeler. Mais deuxièmement, et plus important encore, je crois, il veut nous montrer que s'il y a une telle hostilité du monde envers l'Église, c'est parce que nous sommes l'Église de Christ. Nous sommes l'Église de Christ. Jésus l'a dit lui-même en Jean 15, « Si le monde vous déteste, sachez qu'il m'a détesté avant vous. » Nous sommes l'Église de Christ. Et Luc a une manière très particulière, et ce que j'aimerais vous montrer maintenant assez rapidement, a une manière très particulière de nous rappeler ça, que nous sommes l'Église de Christ. Il connecte, on pourrait dire, les souffrances de Jésus et celles des apôtres ici, d'une manière très particulière. Comment? En racontant cette histoire, cette arrestation de Pierre, en des termes, avec plein de détails, qui nous rappellent très fortement la passion de Jésus. Donc c'est ce que j'aimerais vous montrer maintenant, d'accord? Je vais faire sortir juste quelques détails. Imaginez-vous qu'on est un peu comme un équipage d'un sous-marin. On avait le périscope sorti avant pour voir un peu à la surface du texte ce qui s'y passait. On rentre le périscope, on plonge en profondeur maintenant, juste pour voir un tout petit peu sous la surface ce qui s'y passe, d'accord? Le premier détail que j'aimerais vous montrer, bon, mis à part le nom d'Hérode, comme j'ai dit au verset 1, dont on a déjà parlé, qui est un signal clair, à mon avis, que Luc veut faire le lien entre l'hostilité que Jésus rencontre dès sa naissance et celle que Pierre rencontre ici. Au verset 3, vous voyez au verset 3, on lit que les autorités romaines et juives se liguent pour persécuter l'Église, comme, et là je cite un autre passage des Actes, comme Hérode et Pilate se sont ligués avec le peuple d'Israël pour mettre Jésus à mort. Et puis au verset 4, c'est aussi très intéressant de noter que Hérode, vous voyez au verset 4, il veut attendre que la fête de la Pâque soit passée avant de mettre Pierre à mort. Vous voyez au verset 4? Et c'est très intéressant parce que, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais c'était aussi le plan initial des pharisiens envers Jésus. Je peux vous lire ce passage qui est en Luc chapitre 22. On lit « Les spécialistes de la loi cherchaient les moyens d'arrêter Jésus par ruse et de le faire mourir. Ils se disaient en effet « Que ce ne soit pas pendant la fête de la Pâque afin qu'il n'y ait pas d'agitation parmi le peuple. » Vous voyez, dès les premières versions, on commence à sentir qu'il y a quelques, curieusement, certains détails de l'arrestation de Pierre ressemblent à la passion de Jésus. Et rappelez-vous juste d'une chose que Luc, qui écrit ce chapitre, qui a écrit l'Évangile aussi, est un médecin. C'est quelqu'un de très minutieux, d'accord? C'est quelqu'un de très consciencieux, qui prend garde à chaque détail. Mon pasteur dans mon église d'Envoi en Suisse est un ancien médecin. Et j'ai eu une fois l'occasion de le voir poser du carrelage. Alors, ça n'a rien à voir avec son travail, mais on avait vraiment l'impression qu'il avait vraiment un compas dans l'œil, quoi. C'était précis, minutieux, etc. Luc, c'est un médecin, c'est pour lui chaque détail compte. Regardez encore au verset 5 maintenant. Au verset 5, il est question de la prière ardente ou fervente de l'Église. Et le mot qui est traduit ici par ardent, fervent, c'est un mot qu'on ne retrouve que deux fois dans tout le Nouveau Testament, ici bien sûr, et, vous l'aurez peut-être deviné, dans l'évangile de Luc, au chapitre 22, verset 42, dans le jardin de Gethsémané, Jésus prie et il dit « Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois, que ce ne soit pas ma volonté qui soit faite, mais la tienne. » Et Luc ajoute « Saisi d'angoisse, Jésus priait avec plus d'insistance, de ferveur, d'ardeur, et sa sueur devint comme des caillots de sang qui tombaient par terre. » Et puis Pierre se retrouve dans l'obscurité pendant plusieurs jours comme une sorte de mort, jusqu'à ce que vous voyez au verset 7, l'ange vienne le réveiller. Verset 7, l'ange vient le réveiller. Et il y a deux mots ici qui sont utilisés pour parler de Pierre qui se réveille, qui se lève. Et ces deux mots, egiro anistemi en grec, ces deux mots qui sont chargés d'ambiguïté. Nous, on ne le ressent pas en lisant en français ici. Mais ces deux mots qu'on retrouve là encore dans le récit de la résurrection de Jésus dans l'évangile de Luc. Et qui peuvent être traduits en fonction du contexte, soit par se lever, se relever, se réveiller ou ressusciter. Alors, je ne suis pas en train de dire qu'il faudrait le traduire par ressusciter ici, bien sûr, parce que c'est des mots qui prennent tout leur sens dans leur contexte, mais il y a une ambiguïté qui est là, que nous on ne ressent pas quand on lit en français, parce qu'il a bien fallu faire un choix dans la traduction, mais que les premiers auditeurs de Luc auraient directement remarqué. Puis l'ange accompagné de Pierre passe une, deux, trois portes, je vais un peu plus vite, je vais en passer certains. Et l'ange disparaît, et au verset 11, on voit Pierre qui, on va dire, il émerge un peu, il se frotte les yeux. Et au verset 11, il dit « Maintenant, je sais vraiment que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a délivré du pouvoir d'Hérode et de tout ce que le peuple juif attendait. » Et Luc nous laisse deux détails frappants dans les derniers versets ici. Tout d'abord, lorsque Pierre apparaît aux disciples, il apparaît en premier à qui ? À une servante, à une femme, comme Jésus apparaît premièrement à un groupe de femmes qui vient au tombeau. Et curieusement encore, cette femme revient vers les disciples et son témoignage que Pierre est bien là, eh bien, il n'est pas cru par les disciples. Et là encore, ça rappelle les femmes qui reviennent du tombeau vide pour annoncer la nouvelle aux disciples et les disciples qui, dans un premier temps, ne les croient pas. Alors, vous me direz, c'est des détails, mais ça fait quand même beaucoup de détails. Et il y en a encore certains que j'ai passés. Et ce n'est pas un procédé qui devrait nous surprendre, que Luc essaie de mettre en lien comme ça l'histoire de la mort de Jésus et les souffrances des apôtres, parce que c'est un procédé qu'on retrouve à plusieurs reprises dans le livre des Actes. La mort d'Étienne, par exemple, au chapitre 7, nous rappelle très fortement la mort de Jésus. Le dernier voyage de Paul jusqu'à Rome nous rappelle très fortement le dernier voyage de Jésus jusqu'à Jérusalem, etc., etc. Vous voyez, il semble que par là, c'est ce que j'en retire, que Luc veut nous montrer que les souffrances de l'Église, elles ne sont pas absurdes. Ce n'est pas un mal nécessaire, mais c'est notre communion aux souffrances de Christ. Nous sommes l'Église de Christ. Et vous voyez, dans nos souffrances les plus profondes. Et voilà, je ne peux pas savoir par quoi vous êtes peut-être en train de passer maintenant, mais dans nos solitudes les plus profondes, le temps de sécheresse spirituelle qu'on peut connaître dans ces contextes qui sont les nôtres et qui sont parfois difficiles en tant que chrétien, l'hostilité peut-être que vous rencontrez vis-à-vis de vos proches ou des gens qui vous entourent. Vous voyez, dans nos souffrances les plus profondes, notre Sauveur, il n'est jamais loin. Il n'est jamais loin. Alors bien sûr, il peut y avoir quelque chose de troublant, là, voir Pierre s'en sortir lui finalement très bien, alors que Jacques, lui, il n'a pas eu de délivrance miraculeuse par un ange. Il y a quelque chose de troublant, là, de mystérieux. Mais ça m'a rappelé ces mots d'un missionnaire qui s'appelle David Livingstone, qui a dit la chose suivante, et je pense que c'est vraiment important pour nous d'entendre ça. Il a dit « Je suis immortel jusqu'à ce que mon œuvre pour le Seigneur est achevée. » Je suis immortel jusqu'à ce que mon œuvre pour le Seigneur est achevée. Vous ne pouvez pas perdre votre travail à cause de votre témoignage pour Christ tant que votre œuvre pour le Seigneur dans cette entreprise, là où il vous a placé, n'est pas terminée. Vous ne pouvez pas voir cette relation avec telle ou telle personne se terminer tant que votre œuvre pour le Seigneur auprès de cette personne n'est pas terminée. Et pour nous, de manière plus générale, en tant qu'Église, on ne peut pas disparaître tant que notre œuvre pour le Seigneur, ici, dans cette région, n'est pas terminée. Je crois qu'il y a quelque chose de vraiment très encourageant, très rassurant pour nous de voir ça. On est dans la main d'un Dieu souverain. Nous sommes immortels jusqu'à notre mort. Alors bien sûr, on peut être surpris par la mort de Jacques et cette réalité que l'Évangile progresse péniblement. Mais même dans nos souffrances les plus profondes, notre Sauveur n'est jamais très loin. L'Évangile progresse péniblement, c'est ce que je voulais montrer dans un premier temps. Et dans un deuxième temps, l'Évangile progresse irrésistiblement. Et c'est les derniers versets, les versets 20 et suivants. Je vous invite à ce qu'on relise ces versets. À partir du verset 20. Ah oui, juste avant qu'on les lise, je voudrais juste vous dire que les historiens se disputent sur la date exacte de la mort de Hérode. Ça paraît pas très intéressant comme débat, mais ils se disputent et ça peut être intéressant parce qu'ils disent que c'est au plus tôt 5 mois après cette fameuse Pâque dont il est question ici, où Pierre a été emprisonné. Au plus tôt 5 mois, peut-être même bien plus tard, peut-être une année après, etc. Et c'est intéressant, pourquoi ? Parce que ça nous montre qu'il y a une période extrêmement longue entre le verset 19 et le verset 20. Vous voyez, nous en lisant, on ne s'en rend pas du tout compte, on a l'impression que ça se passe vraiment à la suite. Mais il y a une période de plusieurs mois qui se sont passés entre le verset 19 et 20. Et c'est très intéressant parce que ça nous montre que Luc a un but bien précis en collant ces récits ensemble, l'un après l'autre, qui chronologiquement ne se suivent pas. Et je pense qu'il veut nous montrer, en terminant son récit au verset 25 et non pas au verset 19 comme il aurait pu le faire, il veut nous montrer quel est le sort que Dieu réserve à ceux qui s'opposent à son évangile. Et c'est ce qu'on voit donc au verset 20 et suivant. Et je vais juste les relire. Hérode était en conflit avec les Tyriens et les Sidoniens, mais ils vinrent le trouver d'un commun accord. Et après avoir gagné Blastus, le responsable de sa chambre, ils demandèrent la paix parce que leur région dépendait de celle du roi pour son ravitaillement. Si vous voulez, la Judée où Hérode se trouvait, c'est un peu le grenier de ces deux grandes villes, Tyr et Sidon, qui étaient sur la côte. Verset 21. Le jour fixé, Hérode, habillé de sa tenue royale, était assis sur son trône et leur adressait publiquement un discours. Le peuple s'écria : C'est la voix d'un dieu ! Et non d'un être humain. Un ange du Seigneur le frappa immédiatement, parce qu'il n'avait pas donné gloire à Dieu, et il mourut rongé par des vers. C'est intéressant que cette histoire ici, qui nous est racontée par Luc, se retrouve dans les écrits, comme je disais avant, de cet historien juif du 1er siècle, Flavius Joseph, en des termes suffisamment différents pour qu'on soit bien sûr que ces deux récits sont bien indépendants l'un de l'autre, mais avec des termes qui se recoupent suffisamment pour qu'on soit sûr qu'il s'agit bien du même épisode. Et j'aimerais juste vous lire ce que Flavius Joseph dit, parce que ça nous aide un peu à rentrer dans la scène ici. Voilà ce qu'il écrit. Le second jour des spectacles, revêtu d'une robe toute faite d'argent et admirablement tissée, Hérode entra au théâtre au lever du jour. Et on se croit presque dans un cinéma en 3D, c'est presque comme s'il y avait la musique derrière. Là, au premier feu des rayons du soleil, l'argent reluisait et resplendissait merveilleusement, étincelant d'une manière terrible et même effrayante pour les gens qui fixaient leur regard. Et aussitôt, les flatteurs poussèrent de tous côtés des acclamations qui n'étaient même pas bonne pour Agrippa, ça c'est ce que l'historien dit, des acclamations qui n'étaient même pas bonnes pour lui en le qualifiant de Dieu. Puisses-tu nous être propice, bien que nous ne t'ayons révéré jusqu'ici que comme un homme, désormais nous reconnaissons que tu es au-dessus de la nature humaine. Et puis la dernière phrase qui tue, le roi ne réprima pas leurs propos et ne repoussa pas leur flatterie impie. Je trouve très ironique ici, vous voyez dans ce passage, que celui qu'on appelle la voix d'un Dieu, hein, au verset 22, c'est la voix d'un Dieu et non d'un être humain, meurt en un instant, alors que la vraie voix de Dieu, la parole de Dieu, elle se propage, on le voit au verset 24. Quant à la parole de Dieu, elle se propageait de plus en plus. C'est un passage qui est beau et qui est très encourageant aussi, parce que c'est, on pourrait dire, la sorte d'accomplissement d'une prophétie qui avait été faite quelques chapitres plus tôt. J'aimerais juste vous montrer encore ça au chapitre 5. Si vous revenez avec moi quelques pages, au chapitre 5, on est dans une situation finalement assez similaire que celle qu'on vient de voir ici au chapitre 12. Au chapitre 5, verset 29, les apôtres, notamment Pierre, ont été mis en prison, cette fois par les dirigeants juifs, qui leur interdisent d'annoncer l'évangile. Et au chapitre 5, verset 29, on lit que Pierre et les apôtres répondirent donc aux juifs, « Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. » Ils refusent de se taire. Et on voit au verset 33, vous voyez au verset 33, la réaction des juifs, furieux de ces paroles, il voulait les faire mourir. Mais un pharisien du nom de Gamaliel, professeur de la loi, estimé de tout le peuple, se leva dans le Sanhédrin et ordonna de faire sortir un instant les apôtres. Et puis je saute un tout petit peu pour aller directement au verset 38, voir comment il termine ce qu'il dit à ses camarades du Sanhédrin. Verset 38, il dit « Maintenant, je vous le dis, ne vous occupez plus de ces hommes et laissez-les faire. » Si cette entreprise ou cette activité vient des êtres humains, elle se détruira. En revanche, si elle vient de Dieu, vous ne pourrez pas la détruire. Ne courez pas le risque de combattre contre Dieu. Combattre contre l'Église, vous voyez, c'est combattre contre Dieu. Et je ne sais pas si vous voudrez le dire comme ça, mais il y en a qui ont essayé et ils ont eu des problèmes. Même du vivant. De la plupart d'entre nous, on peut penser très concrètement, la Russie des années communistes a essayé d'éradiquer le christianisme sur ses terres et n'a absolument pas réussi. Mao en Chine a essayé de le faire. Aujourd'hui, on compte plus de 100 millions de chrétiens en Chine. L'Église est extrêmement vigoureuse dans ce pays-là. Les sociologues pluralistes et athées dans nos pays, ici en France, en Occident, avaient prédit le lent déclin de la foi chrétienne et aujourd'hui, ils sont vraiment forcés de revoir leurs prédictions. Parce que l'Église, en tout cas dans sa globalité, peut-être pas directement ici dans nos régions, mais dans sa globalité, l'Église n'a jamais été aussi vigoureuse qu'aujourd'hui. Et ouais, du coup, je crois qu'il n'y a pas de crainte à avoir, ni même en fait de pronostic à faire sur le sort que Dieu réserve à ceux qui s'opposent à son Église, que ce soit des régimes qui existent aujourd'hui comme la Corée du Nord, que ce soit quand on voit le progrès de l'État islamique ou des choses comme ça, ou même simplement, voilà, à un niveau plus personnel, les difficultés qu'on peut ressentir autour de nous pour transmettre l'Évangile, l'hostilité qui peut être là. Oui, il y a des temps difficiles et l'Église est persécutée aujourd'hui dans certains pays, mais nous pouvons être sûrs de quel est le sort que Dieu réserve à ceux qui s'opposent à lui. Acte 12 commence avec Jacques décapité, Pierre emprisonné, l'Église persécutée, et Hérode triomphant, l'évangile progresse péniblement. Mais notre histoire se termine avec Pierre délivré, l'église fortifiée, Hérode mort et la parole triomphante. L'évangile progresse irrésistiblement. J'en arrive au bout, mais j'aimerais juste, avant de terminer, vous donner juste trois mots d'application. J'espère un tout petit peu plus précis, un tout petit peu plus concret. Trois choses que j'aimerais vous laisser. Tout d'abord, n'oublions pas ce que j'appelle la loi de la moisson. N'oublions pas la loi de la moisson. Ce que je veux dire par là, c'est ce qu'on trouve dans l'évangile de Jean au chapitre 12, dans la bouche de Jésus, qui dit la chose suivante, « Si le grain de blé que l'on a jeté en terre ne meurt pas, il reste seul, mais s'il meurt, il porte du fruit en abondance. » Alors, bien sûr, dans ce passage-là, premièrement, avec ces mots, Jésus faisait référence à sa mort à lui, qui allait produire une récolte immense de millions, de milliards d'hommes qui allaient venir à lui, dont nous faisons partie, nous qui attendons cette moisson qui aura lieu au dernier jour. Mais par ces mots-là, si le grain de blé que l'on a jeté en terre ne meurt pas, il reste seul, mais s'il meurt, il porte du fruit en abondance, Jésus faisait référence aussi à chacun de ses disciples, à vous et à moi. Il y a, vous voyez, une relation de cause à effet entre les souffrances et les bénédictions. Il n'y a pas de bénédiction sans souffrance. Il y a des renoncements à nous-mêmes que nous devons vivre. Il y a des morts à nous-mêmes que nous devons mourir si nous voulons voir l'évangile de Christ se propager dans cette région ici. On va certainement tous, et je le dis vraiment pour moi en premier, à revoir nos priorités. Est-ce que notre préoccupation principale, première au quotidien, c'est de voir l'évangile de Christ se propager là où nous sommes, de manière très simple, de voir l'Église fortifiée, ou est-ce que ces choses-là sont finalement que secondaires après notre désir de vivre une vie paisible et tranquille? Il y a des morts que nous devons mourir si nous voulons voir l'évangile progresser. Alors n'oublions pas la loi de la moisson. Et deuxièmement, n'oublions pas que la victoire est acquise. J'ai dit avant, on est immortel jusqu'à notre mort. Dans la main du Dieu souverain, uni au Christ vainqueur déjà maintenant. Et pourtant, et là encore, je le dis pour moi en premier, on vit parfois comme les plus malheureux des hommes, n'est-ce pas ? Et Paul dit d'ailleurs qu'on est les plus malheureux des hommes si Christ n'est pas ressuscité. Mais Christ est ressuscité. Il est vainqueur. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure, vraiment au début, lorsque je vous ai montré que dans son évangile, Luc nous a décrit ce que Jésus-Christ a commencé de faire. Sous-entendu, l'aventure continue. Christ est vivant aujourd'hui, il règne, pardon, il règne en souverain maître du ciel et de la terre. Et l'évangile du Christ roi, qui règne aujourd'hui, progresse triomphalement. La victoire est acquise. Alors, d'une part, oui, n'oublions pas, comme j'ai dit, la loi de la moisson, pour éviter de tomber dans, on pourrait dire, dans une sorte de triomphalisme naïf et d'être surpris lorsqu'on est face à certaines souffrances, à certaines difficultés et à capituler. Mais n'oublions pas non plus que la victoire est acquise. Ça nous évitera de tomber, comme c'est malheureusement souvent le cas, dans une forme de cynisme et de découragement dans notre vie chrétienne. Et puis troisièmement, et je termine par là, n'oublions pas de prier. Parce qu'il est impossible de prêcher sur ce passage-là sans s'arrêter juste une seconde sur l'attitude de l'Église qui, comme on l'a lu au verset 5, adressait d'ardentes prières à Dieu pour Pierre. Ce qui est très curieux, à mon avis, c'est que la plupart des commentateurs, si vous lisez les commentaires sur ce passage-là, très rapidement, ils vont être très critiques et dire « mais quand même, il y a un grand manque de foi de ces chrétiens qui prient pour la délivrance de Pierre, et lorsque Pierre est vraiment là, à la porte, et qu'il toque, personne n'a même envie de se lever pour vérifier qu'il est bien là. » Et ils disent « mais quel manque de foi de ces croyants !» À mon avis, et là, vous avez bien le droit de ne pas être d'accord avec moi, mais je ne suis pas sûr qu'on puisse juger les disciples pour leur soi-disant manque de foi ici, parce qu'on ne sait pas pourquoi ils priaient. Ils priaient pour Pierre. Mais est-ce qu'ils priaient pour sa délivrance, premièrement? Certainement qu'ils priaient aussi pour sa délivrance, mais est-ce qu'ils ne priaient pas premièrement pour que Pierre tienne ferme en Christ, quoi qu'il advienne, quelle que soit l'issue du procès, quelles que soient les circonstances auxquelles il devait faire face? Si je dis ça, c'est parce que, enfin, si je penche plutôt pour cette deuxième possibilité, c'est parce que lorsque Paul est exactement dans la même situation, il est en prison, dans l'attente de son procès devant les autorités romaines, il écrit aux Philippiens, vous vous rappelez peut-être, on l'avait vu il y a quelques mois dans l'Épître aux Philippiens, il leur écrit pour qu'ils prient à son égard, mais il ne leur demande pas de prier pour sa délivrance. Il leur demande de prier pour qu'ils tiennent ferme, afin que, et là je cite Philippiens 1, afin que dans sa vie ou dans sa mort, Christ soit glorifié. Et vous voyez, je crois que c'est ça l'attitude que nous devons avoir dans la prière. Alors oui, bien sûr, prions pour que l'Église, qui est persécutée aujourd'hui dans certains pays, au Moyen-Orient, en Afrique, etc., prions pour que l'Église soit protégée, que Dieu protège les siens et qu'il oppose ceux qui sont ennemis de la foi et de son évangile. Oui, prions pour ça. Mais prions aussi avant tout pour nous, que Dieu nous donne, qu'il nous fasse la grâce de tenir ferme en Christ, quoi qu'il advienne, quelles que soient les circonstances, et de proclamer l'évangile du Christ roi partout où nous sommes, quel que soit le lieu où Dieu nous a placés. Vous voyez, du coup, je crois vraiment que ce livre des Actes, de manière générale, ce passage qu'on vient de voir, cette parole que Dieu nous adresse ce matin, c'est vraiment un appel à un réveil en profondeur pour chacun d'entre nous. Un appel à retrouver, on pourrait dire, quelque chose de l'esprit qui animait cette église primitive, leur ferveur dans la prière, leur ardeur missionnaire, leur unité. C'est vraiment un appel, même pour chacun, personnellement, je crois, à se rappeler qu'est-ce que ça veut dire que d'être un disciple du Maître, un disciple de Jésus-Christ, un témoin fidèle qui est prêt à marcher dans les traces de son Maître, quel qu'en soit le coût, jusqu'au bout, sans réserve. J'aimerais terminer en vous citant juste un ou deux versets que Pierre, cet apôtre qu'on a suivi ce matin, écrit dans sa première épître au chapitre 4, les versets 12 et 13. 1 Pierre 4, versets 12 et 13. Mes bien-aimés, ne soyez pas surpris de la fournaise qui sévit parmi vous pour vous éprouver comme s'il vous arrivait quelque chose d'étrange. Réjouissez-vous, au contraire, de la part que vous prenez aux souffrances de Christ, afin d'être aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire sera dévoilée. Amen. Je vous invite avant de prendre un temps de prière, ou l'un ou l'autre d'entre vous pour nous diriger dans la prière, à chanter un cantique qui est vraiment un cantique de réponse à cette prédication. C'est le 349. C'est un rempart que notre Dieu. Et je vous invite à vous lever pour le chant de ce cantique 349.
Il nous délivre, il nous tient lieu d'armes et de forteresses. Notre ennemi mortel, rusé fort et cruel, rugit, menace et redouble d'audace. Il n'a point d'égal sous le ciel. Seul nous serions bientôt perdus dans ce pays.